La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info. Merci d'écouter chaque semaine nos débats consacrés à l'actualité nationale. Je salue les deux invités de cette émission, Marie-Christine Monnoyer, universitaire, membre de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, et Bruno Cyr, professeur en économie et gestion, ex-président de l'Université Toulouse Capitole. Bienvenue aussi à vous deux, merci d'avoir répondu à mon invitation. Dans l'actualité nationale récente, a été rendue publique en fin de semaine dernière une proposition émanant du MEDEF. L'organisation patronale suggère de créer un nouveau type de CDI, de contrat de travail à durée indéterminée donc, pour lutter contre le chômage des jeunes. Le dispositif proposé rappelle un peu le contrat première embauche, le CPE, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait été créé en 2006 et aussitôt supprimé par le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin. Les dirigeants du MEDEF disent plutôt, eux, s'inspirer de l'exemple italien du contrat à droit progressif créé en 2016 et qui, selon eux, a contribué à la baisse du chômage structurel dans ce pays. Il s'agirait de l'adapter en France par le biais d'un CDI pouvant être rompu sans motif pendant les premières années et avec une indemnisation croissante en lien avec l'ancienneté du salarié en cas de rupture. Le MEDEF suggère également de s'interroger sur le SMIC qui peut parfois constituer un frein à l'emploi pour les primo-entrants sur le marché de l'emploi. L'objectif est d'aider les entreprises à surmonter la peur de l'embauche, en premier lieu celle concernant les jeunes ou les personnes peu qualifiées. Est-ce que cette proposition mérite réflexion selon vous? Oui, voyez-vous d'emblée une mesure un peu dangereuse qui pourrait aller dans le sens d'une précarisation accrue de l'emploi en France? Marie-Christine Monnoyer, je sais que ce sujet vous intéresse.
D'abord, bonjour, bien sûr. Je dois dire que quand j'ai entendu cette nouvelle, j'ai été très étonnée. D'abord, sans doute parce que je me souviens de 2006. C'est vieux, bien sûr, il y a 20 ans, mais je me le rappelle très bien. Je me rappelle très bien des défilés des étudiants dans la rue. Et nombre des auditeurs doivent aussi en rappeler. Donc c'est quand même étonnant que 20 ans après, on propose une mesure qui a des points communs, même si il est annoncé qu'elle se rapproche d'une idée italienne. Elle m'impressionne parce que je ne la comprends pas. Elle m'impressionne parce qu'il y a une petite phrase qu'on trouve souvent dans les études d'économie, la fragmentation du travail nourrit la précarité. Or, est-ce que ce n'est pas fragmenter encore le travail que d'opposer les plus jeunes et les moins jeunes, que de mettre en avant le fait que les jeunes apprécieraient d'entrer dans la vie professionnelle d'une façon un petit peu chaotique, mais qui correspondrait à leurs attentes? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, a priori, à cause des statistiques existantes, et je ne comprends pas, en réfléchissant, à cause des conséquences. À cause des statistiques, ce que tout le monde sait, ou tous ceux qui s'intéressent un peu aux chiffres sur l'emploi, nous savons que la part des CDD dans l'emploi salarié a beaucoup augmenté dans les 20 dernières années. Tout simple, il a plus que doublé. Donc, ça veut dire que nous avons déjà l'habitude des contrats à durée déterminée. Nous savons aussi que lorsqu'on a un contrat à durée déterminée, ça veut dire que c'est un contrat court. Et quand on a un contrat court, ça veut dire qu'on est immédiatement en recherche de l'autre contrat, celui qui suivra le premier contrat court. Et donc on est dans une situation un petit peu de perpétuelle recherche d'emploi, ce qui évidemment n'est pas très facile à vivre. Mais là, je rapproche une statistique et une conséquence. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres des statistiques qui vont un peu dans le même sens. L'autre statistique, c'est l'augmentation de la part des micro-entrepreneurs. Alors, la micro-entreprise qui a changé de nom avec le temps, mais bon, les micro-entrepreneurs, ils représentent aujourd'hui plus de 10% des emplois indépendants. C'est-à-dire que c'est les personnes qui ont, entre guillemets, choisi d'être micro-entrepreneurs, c'est parce qu'ils ne trouvaient pas leur place dans la société active, parmi les emplois de salariés. Et nous savons tous aussi, les chiffres sont extrêmement précis, que les micro-entrepreneurs ont des rémunérations personnelles qui sont très faibles. Donc, là encore, c'est un point qui n'est pas particulièrement intéressant. Le troisième point, quand on évoque l'histoire du SMIC, le niveau du SMIC, nous savons aussi que déjà, si on travaille à moins de 17 ans, on a un SMIC plus faible que si on est entre 17 et 18 ans, et on a un SMIC plus faible que si l'on a plus de 18 ans. C'est-à-dire que la petite phrase disant que le niveau du SMIC est une contrainte lourde pour l'entreprise qui, de ce fait, a peur de s'engager, les entreprises ont déjà obtenu qu'en ce qui concerne l'âge, il y ait déjà des différences. Alors, est-ce que l'on veut vraiment augmenter encore ces différences? Et puis, et je m'arrêterai là puisque on est là pour discuter, échanger, voilà. Le dernier point, c'est que ce qui me gêne, ce sont les conséquences multiples d'une telle modification de l'organisation. Alors, je crois me souvenir que la dernière fois que je suis venue participer à cette émission, on a en particulier évoqué la question de la baisse de la natalité. Comment ne pas voir un lien entre le fait qu'on a beaucoup de mal à rentrer sur le marché du travail et qu'on recule des décisions qui sont pourtant extrêmement personnelles, mais qu'on peut avoir dans la tête, en même temps que de chercher un travail, on souhaite avoir des enfants. Est-ce que le président du MEDEF a pensé que tant qu'on n'était pas un petit peu installé dans la vie, il était difficile d'avoir des enfants?
Pas sûr que ça soit rentré dans la réflexion des dirigeants du MEDEF, cette donnée, mais cela dit, vous avez raison d'y faire allusion. Bruno Cyr, est-ce que vous partagez toutes les inquiétudes de Marie-Christine Monnoyer concernant cette proposition du MEDEF?
Non. Non, pas du tout même. Moi, je vais rester centré sur ce qui me paraît être le vrai problème. Au-delà d'une approche qui est que, évidemment, tout le monde, et moi comme les autres, souhaite et souhaiterait pour nos jeunes avoir des emplois stables, bien payés. Tout le monde souhaite ça. Mais une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit, attention, la précarité, etc., on constate, d'ailleurs, Mme Monnoyer l'a dit sans précisément le dire, mais c'est là où je trouve déjà un peu une contradiction, et excusez-moi de vous le dire, il y a déjà énormément de précarité, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que les emplois qui se sont développés, c'est les CDD, c'est-à-dire des emplois extrêmement précaires, où les jeunes ne pensent qu'à rebondir d'un CDD à l'autre et sont en permanence angoissés.
L'intérim
et surtout,
aussi.
Et surtout avec ces CDD, n'ont pas la capacité à fonder un foyer stable, puisqu'ils n'ont pas d'emploi stable, de revenus stables, pas la capacité d'acheter une maison ou un appartement,
d'emprunter,
pas la capacité d'emprunter, etc. Donc il y a énormément de précarité. Et la question, c'est d'en sortir, justement, parce que la question de la natalité est évidemment liée à cette précarité, mais ce n'est pas parce qu'on veut leur donner un CDI que ça va détruire la précarité. Au contraire, avoir un CDI, a priori, c'est plutôt une bonne chose de ce point de vue-là. Donc, je crois qu'il faut, sortir des clichés et revenir au fond du problème. Le fond du problème, c'est quoi ? C'est les statistiques. Alors, je ne vais pas utiliser les mêmes, parce qu'évidemment, celle que vous avez utilisée, elle ne parle pas de l'emploi. Moi, je vais vous parler de l'emploi. Le taux de chômage en France est à 7,7%. La moyenne européenne est à 6,4%. La France est devenue un mauvais élève sur la question du taux de l'emploi. Quand je compare le chômage en France, 7,7%, l'Allemagne, 3,8%, l'Italie, 5,7%, les Pays-Bas, 4%. Derrière nous, effectivement, il y a l'Espagne et quelques autres pays. Mais on est quand même dans le peloton de queue. Donc on a un problème de chômage. Et le problème, c'est de s'attaquer à ça. Et plus grave encore, non seulement on a un problème de chômage, mais on a un problème de chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, c'est 18,5%. Alors moi, je comprends qu'ils aient du mal à s'installer dans la vie. Mais parce qu'il y a trop de chômage chez les jeunes. Et pour résoudre cette difficultés qu'ont les jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Effectivement, il y en a beaucoup qui créent leur entreprise, mais avec, effectivement, ils ont des revenus. Ils travaillent beaucoup avec des revenus extrêmement faibles. Donc, on ne peut pas les laisser là-dedans. Il faut essayer de trouver des solutions. Et chaque fois que quelqu'un veut mettre le sujet sur la table, dire comment vous pouvez... Mais au moins, posons les problèmes et essayons de voir comment on peut en sortir. Alors, je rappelle que pour les moins de 25 ans, on est à 18,5% en France. La moyenne européenne est à 14,5%, donc là encore, on est dans le peloton de queue. L'Allemagne est à 6,8%, trois fois moins que nous. L'Italie est exactement comme nous, 18,5%. Les Pays-Bas sont à 3%. Donc moi, je pense qu'il faut s'inspirer des pays, des endroits où il y a des choses qui marchent, parce qu'on est en train de venir avec des positions un peu de principe, si vous voulez. On veut des emplois stables et qu'ils soient bien payés, ok, ça c'est le principe, mais il y a une réalité et il faut savoir ouvrir les yeux, loin des clichés, des a priori, des visions dogmatiques, pour ouvrir la cause. Donc maintenant, si je regarde quelles sont les causes de cette faiblesse française, structurelle, du marché du travail. Les causes, il y en a au moins quatre et peut-être cinq. Premièrement, le marché du travail est extrêmement rigide. Et extrêmement rigide parce que, effectivement, il y a une protection sociale sur les gens qui ont un emploi stable à temps plein qui est considérable en France. On est les champions de la protection sociale. Et résultat des courses, c'est effectivement les CDD qui se sont développés, c'est-à-dire la précarité. C'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à l'autre. On ne s'est pas trouvé un milieu entre la hyper-protection de ceux qui ont un CDI et la précarité extrême de ceux qui sont dans des CDD. Donc là, on a un vrai problème de rigidité. Ce problème de rigidité, il est d'autant plus embêtant que l'avenir va nous demander beaucoup de flexibilité.
De souplesse, oui.
Pourquoi ? À cause de l'impact qui va se faire très rapidement, du moins c'est ce que j'anticipe, mais je ne suis pas le seul à le penser, de l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, beaucoup d'emplois intellectuels et liés à des niveaux élevés d'études vont disparaître. Ça, c'est à peu près clair pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui va apparaître pour remplacer ça ? Parce qu'il ne faut pas croire que ça va disparaître, mais tout va s'arrêter. Non. Mais ce qui va être survalorisé, ce sont les emplois de techniciens, les emplois manuels, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas les emplois intellectuels. Les emplois intellectuels, je pense qu'on est dans une période. Or, en France, on a un problème d'ajustement entre le système éducatif et le...
Vous allez y venir à ça, sur le côté de la formation. Est-elle adaptée aux besoins des entreprises ?
Donc, on a besoin de souplesse si on veut répondre effectivement à ça. Et c'est sûrement pas en disant « touchez pas la rigidité qu'on a créée en France » qu'on va répondre à ce besoin de souplesse.
Mais c'est pas ça que j'ai dit. Hein.
Non, non, mais c'est pas ça que vous avez dit. Moi, je parle des causes. Je parle des causes.
Allez-y, vite.
La deuxième cause, c'est l'orientation scolaire. Je viens de le dire, je reviens pas dessus. Mais l'orientation scolaire, on est dans un pays où l'apprentissage est beaucoup moins élevé que dans d'autres pays, et notamment dans les pays du nord de l'Europe. Et je pense que, justement, c'est par le biais de l'apprentissage. Or, l'apprentissage, c'est des sortes de CDI à durée déterminée. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence... Enfin, je ne vais pas faire un cours sur l'apprentissage, mais je me suis beaucoup employé dans mes fonctions à essayer de développer l'apprentissage, mais je regrette que ça ne se développe pas davantage, et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. La troisième chose, c'est les effets de seuil. Il y a des effets de seuil. Les ruptures de contrats de travail en France sont extrêmement coûteuses et extrêmement longues. Et du coup, notamment les PME, qui sont beaucoup créatrices d'emplois, ou les jeunes qui créent leur structure et qui ont un marché qui se développe, pourraient embaucher. Mais ils se disent, ça va être très compliqué. Si jamais je ne trouve pas de clients dans 6 mois, comment je vais faire
pour payer ? C'est la peur de l'embauche qui a été soulignée.
Évidemment que c'est une difficulté majeure et un frein à l'embauche, que ces effets de seuil... Et là aussi, il faut se redonner de la souplesse. Voilà. Et enfin, la transition études-emploi, je l'ai dit, elle est mauvaise en France. On ne sait pas faire la transition. On fait des études et on passe sur le marché du travail. Bon, je pense que l'apprentissage regarde ça. Donc, quand je fais le tour de ces problèmes, je me dis... Alors, évidemment, il y a le spectre du CPE qu'on va agiter. Mais je me dis, il faut réfléchir à la nature de nos contrats de travail. Il faut arrêter de proposer aux jeunes des CDD sur des CDD et des CDD, et il faut essayer de trouver quelque chose. Si la proposition du MEDEF va dans ce sens, je pense, et pose ce problème...
Elle mérite d'être étudiée.
Elle mérite d'être étudiée, elle mérite d'être mise sur la table, et c'est le rôle du MEDEF, et ensuite... Mais j'ai qu'une grande crainte, c'est qu'effectivement les partenaires sociaux, aveuglés par leur idéologie, vont crier au loup, vont dire « je ne comprends rien », etc. Et encore une fois, on va repartir, parce que moi, le CPE, je l'ai vécu aussi, hein, et je l'ai vécu de près, pas parce qu'à ce moment-là, j'avais des fonctions importantes à l'université, je voyais bien les étudiants qui se mobilisaient, etc., donc je regardais ça de près. Mais le CPE, il faut quand même dire et accepter de dire, c'est une victoire à la Pyrrhus des étudiants. C'est-à-dire que ça n'a réglé aucun problème. Ils ont gagné peut-être, mais en fait, tout le monde a perdu. Et tout le monde a perdu parce que les entreprises ont délocalisé leurs emplois et les jeunes sont avec 18,5% de chômeurs aujourd'hui. Donc si tout le monde est content avec ça, ben continuons comme ça, mais moi, ça ne me satisfait pas.
Bon, donc on voit bien que vous n'êtes pas sur la même ligne, sur la même analyse en tout cas. Vous ne voyez pas les mêmes conséquences si cette proposition était mise en œuvre. Deux choses, la remise en cause du SMIC et les questions de la formation. Le MEDEF a fait des suggestions aussi. Alors, concernant le SMIC, il suggère, dans un premier temps, hein, bien sûr, pour un public bien ciblé et dans une durée limitée, potentiellement par la négociation collective, d'adapter le SMIC dans une logique d'incitation à l'embauche et d'adéquation entre le niveau de rémunération et les compétences des primo-entrants. Donc ça, c'est la première suggestion. Je ne sais pas si pour vous, c'est quelque chose d'imaginable. Et puis après, concernant une autre suggestion qui consisterait à renforcer les engagements en matière de formation professionnelle, eux, ils proposent d'abaisser en deçà d'un certain âge la durée minimale des contrats à temps partiel, de supprimer les délais de carence entre deux CDD, ou encore d'augmenter leur durée légale. Bon, voilà, deux propositions qui s'ajoutent à la proposition concernant le CDI qu'on pourrait rompre sans motif pendant les premières années. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Christine Monnoyer, de ces deux autres suggestions?
D'abord, je suis d'accord avec les statistiques qui ont été données par
Bruno Cyr.
Je ne les ai pas inventées.
Évidemment. Et donc, comme nous sommes tous les deux des économistes, on a l'habitude de regarder les statistiques et les statistiques ne nous font pas peur. Ceci étant, et ça va tout à fait rejoindre votre question, ce qui m'impressionne, c'est que, en fait, il y a des statistiques qui nous manquent. La flexibilité qui est demandée et dont on a effectivement besoin, la flexibilité qui est demandée, elle existe déjà. Le nombre de jeunes qui trouvent un poste de travail, enfin, qui sont embauchés en CDI, avec une période d'essai, se termine trop souvent à la fin de la période d'essai. Et vous en avez forcément des exemples dans votre entourage. C'est-à-dire que les entreprises ont bien compris qu'elles avaient besoin de flexibilité, qu'elles ne savaient pas forcément ce qui allait se passer dans 6 mois, et ça, on est tous à fait d'accord, et elles utilisent ce système du CDI. Le nombre de jeunes de mon entourage qui ont été tout heureux d'être embauchés en CDI et qui, à la fin de leur période d'essai, qui dure selon les cas 1 mois ou 3 mois, se retrouvent exactement dans la même situation que 3 mois précédents, il est tellement important que moi, il me fait mal. Parce qu'en fait, c'est de la triche. Et cette statistique-là, je ne peux pas vous la donner parce que je ne l'ai pas. Et donc, vous allez me dire que c'est simplement... Donc, ce point est là très important. Le deuxième point, ce qui vient d'être dit sur le SMIC. C'est effectivement vrai qu'on a déjà constaté qu'il y avait un SMIC à 3 niveaux selon l'âge. Ok, ça peut s'expliquer par de tas de raisons. Ce que je constate avec mes étudiants, c'est que le nombre de ceux qui sont en bac plus 5 et auxquels on propose 2100, 2002, quand le SMIC est à, si je ne veux pas dire de bêtises, 1823.
Vous êtes en brut, là. Hein?
Oui, je suis en brut.
Oui, parce que
je suis en brut.
Ça ne parle pas forcément aux gens.
Non, en brut.
Oui.
Le SMIC brut, c'est 1823. Quand un étudiant qui a un bac plus 5 se fait proposer 2100 brut, et j'en connais un certain nombre, j'ai déjà l'impression que la flexibilité qui est demandée par le patron du MEDEF, elle existe déjà. Alors, qu'est-ce qu'il va proposer ? En dessous de 1800 ? J'ai peur. On a déjà constaté sur le plan national l'aplatissement des rémunérations. Et nous le savons tous les deux très bien. Ça s'écrase sur le SMIC. Il y a beaucoup plus de SMICards et de proches du SMIC qu'il y a 20 ans. Donc, la flexibilité, l'effet peur première embauche, elle existe déjà. Qu'est-ce que va nous apporter l'autre ? Même si je suis parfaitement d'accord avec Bruno Cyr, il faut qu'on se sorte de ce problème du chômage des jeunes qui devient catastrophique. Pourquoi est-ce que les Danois arrivent à 3% ? Pourquoi les Allemands arrivent à 6 ? Enfin, ça c'est pour le chômage général. Et pourquoi nous, on est à plus de 7 ? C'est une bonne question.
Après lui,
messieurs du MEDEF, trouvez-nous des solutions.
Est-ce que la cause principale, c'est l'inadéquation entre la formation que reçoivent les étudiants en France ?
Non.
Quel que soit... Pour vous, ce n'est pas ça, hein ?
Non, ce n'est pas ça. Bon. Parce qu'on a fait vraiment beaucoup d'efforts en la matière.
Donc, notre formation est adaptée aux besoins des entreprises.
Je vais essayer de vous répondre sur la question du SMIC. Le problème, un des problèmes typiques qu'on a en France, et ça aussi, ça a été montré en économie, c'est que en France... En surréglementant le marché du travail, on a créé des trappes à pauvreté.
On est d'accord.
Les deux choses, les deux exemples que vous avez cités, c'est typiquement ce dont on est. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout de la flexibilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas assimiler le fait que les CDI ne sont pas confirmés à de la flexibilité. C'est simplement qu'on a subventionné les emplois précaires, les CDD, et qu'un employeur se retrouve à se dire « j'ai toujours pas une très bonne visibilité sur mon chiffre d'affaires dans les 6 mois ou 1 an qui viennent. Donc j'ai un CDI que je vais confirmer sans visibilité, et ensuite je ne pourrai pas le licencier, ça sera fini, ou alors je renonce et j'en trouve un autre ou un CDD, et donc il va surexploiter la précarité. C'est pas la flexibilité, c'est la précarité.
D'accord, mais si on fait ça en permanence...
Mais on fait ça en permanence. Pourquoi les gens font ça ? Vous croyez que c'est qu'ils sont méchants ? Vous avez sûrement des chefs d'entreprise dans votre famille, c'est tous des méchants. Mais non, ils font ça parce que simplement l'État, en voulant s'occuper de tout et se mêler de tout, les pousse à faire ça. Et c'est ça la perversité de toutes ces lois sur la protection sociale, c'est qu'elles ont des effets pervers qui sont dramatiques. Dramatique et en particulier pour les jeunes. Parce qu'à force de vouloir aider, ben on a créé des endroits qui sont des trappes. Pourquoi est-ce que presque tout le monde est au SMIC ? Ben parce qu'il y a des, il y a des subventions qui font que, si pour les gens au SMIC, on ne paye pas ou très peu de charges sociales. Donc dès que vous dépassez un peu le SMIC, hop, vous avez des charges sociales qui vous tombent dessus. Donc le type se dit, mais moi, j'ai... Alors surtout dans les endroits où les marges sont faibles, le type se dit, mais si tout d'un coup je me prends plus 20% de charges sociales,
je mets en péril,
c'est-à-dire de mon coût du travail, j'augmente plus le bonhomme. Et s'il demande à cause de l'ancienneté d'être augmenté, ben je le licencie et j'en prends un autre. Et donc je fais des CDD. Donc moi je crois que la surréglementation a tué la capacité d'adaptation de notre système d'emploi et il faut absolument revenir dessus et mettre des choses qui sont beaucoup plus fluides pour permettre une adaptation et ne pas en permanence avoir des gens qui se disent, parce que moi je connais beaucoup de chefs d'entreprise qui sont vraiment des gentils, qui font tout, qui ne sont pas des exploiteurs, hein, cette image que les chefs d'entreprise sont tous des méchants et multiplient les CDI, ce n'est pas vrai. Moi, les gens que je connais autour de moi, ils ne sont pas comme ça. Ils sont poussés à le faire par une surréglementation qui les empêche de faire autrement. Et donc, j'en viens maintenant à la deuxième question que vous avez évoquée, c'est-à-dire la question des bacs plus 5. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, mais il y a déjà de la flexibilité, puisqu'à 17 ans, le SMIC est moins cher, sauf que personne ne travaille à 17 ans. Hein, on rentre sur le marché du travail à presque 21 ans aujourd'hui. Donc évidemment, vous pouvez mettre des réglementations avantageuses sur les 17-18 ans, mais ils passent tous le bac à 18-19 ans. Donc ils ne sont pas en train de chercher du travail. Il y en a très peu. Donc c'est pour les...
Sauf qu'ils travaillent parfois pendant les vacances.
Oui, mais là, c'est des petits boulots de CDD. Pendant les vacances, on ne cherche pas des CDI, on ne pense pas à fonder un foyer, acheter une maison, etc. Non, c'est quand ils ont fini leurs études que se pose le problème. Donc, c'est la tranche 20-25 et même au-delà. Donc, ces jeunes qui font des études, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'ailleurs, ça va être un problème de plus en plus difficile à résoudre, on surforme à des niveaux qui ne sont pas adaptés au marché du travail. Donc effectivement, vous avez, quand je vois, vous allez dans les filières littéraires, par exemple en psycho, vous avez 1800 étudiants qui s'inscrivent chaque année en psycho. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens? Alors ils arrivent à bac plus 5, ok, mais on ne va pas créer dans la région toulousaine 1800 postes de, tous les ans de psychologues, si vous voulez. Donc il y a un moment où effectivement, il y a une inadéquation du marché du travail et dans les filières...
Mais plutôt de la formation au marché du travail.
Oui, la formation,
mais une indication. J'ai bien envie de répondre aussi à cette...
Mais, mais j'ai fini mon raisonnement. Bien vous sûr. Avez, dans certains secteurs, plus que dans d'autres, il y a des secteurs où il y a de l'embauche à un niveau bac plus 5, des secteurs pour ingénieurs, etc., ou les écoles de commerce de haut niveau, mais il y a beaucoup de secteurs où il n'y a pas l'embauche. Donc, effectivement, le type, il a peut-être bac plus 5, mais sauf qu'avec son bac plus 5, il ne trouve rien.
Et donc,
il rentre chez McDo, je caricature, pour faire la
plombe. Il y en a, c'est le cas.
Et effectivement, on a une difficulté là, c'est que les emplois de ces secteurs de services qui sont des emplois où les marges sont très très faibles parce qu'il y a beaucoup de concurrence, eux, ils sont extrêmement sensibles au fait que s'il y a un CDI, est-ce que je pourrais m'en passer si tout d'un coup ça va moins bien? Si j'ai trop de charges sociales, est-ce que je pourrais les payer, etc. Donc tous ces secteurs de la restauration, des services à la personne, des artisans qui sont souvent des PME, je vous prends un exemple simple. Essayez de trouver un électricien ou un plombier. Eh bien, c'est 3 mois pour qu'il vienne chez vous pour vous réparer. Et quand vous lui dites, mais alors vous êtes débordé de boulot, pourquoi vous embauchez pas? Ah, mais je peux pas embaucher, monsieur, ça me coûte beaucoup trop cher. Donc moi, je me donne un salaire à peu près correct, mais si j'embauche, je plie la maison. Et en plus, je ne pourrais pas licencier le gars, il va me foutre prudhomme, ça va me coûter une fortune.
Oui,
donc non,
peur,
je refuse d'embaucher. Et c'est ça la réalité. Alors c'est bien beau le dogmatisme, les patrons sont des méchants, mais je pense qu'il faut avoir le courage de regarder où sont les vrais blocages dans le système.
Marie-Christine Monnoyer, vous vouliez répondre et réagir.
Un des blocages, c'est cet apparent indispensable entre le diplôme et le poste. Si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays que le nôtre, puisqu'au fond, on a vu qu'il fallait qu'on cherche des idées puisqu'on n'y arrivait pas tout seul. Il n'est pas rare, dans les pays européens qui nous sont les plus proches, qu'un diplômé en psychologie ne devienne pas psychologue, qu'un diplômé en philosophie ne devienne pas philosophe.
Ou prof de philosophie.
C'est-à-dire que quand on a un bac plus 5, voire même un bac plus 3, On a des connaissances théoriques, des connaissances pratiques, des soft skills qui sont...
Expliquer ce qu'est soft skills, parce que ça, ça ne parle pas à tout le monde.
Des savoir-être voilà. Et des savoir-faire, mais surtout des savoir-être. On a acquis tout ça...
Des méthodes de travail aussi.
Au fil de sa formation primaire et secondaire et supérieure. Et une des solutions à notre problème du chômage, c'est qu'effectivement, entre l'imaginaire du jeune qui se lance dans une licence de sociaux ou un master de sociaux ou un master de psychologie... On ne va pas limiter à ces deux cas, mais qui sont des disciplines à la fois extrêmement concrètes, mais aussi un petit peu floues, eh bien, il pourrait être très heureux autrement qu'en étant théoriquement sociologue ou théoriquement psychologue. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises allemandes, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises anglaises. Et ça atténuerait considérablement cette difficulté de démarrage, parce qu'en plus, on se rendrait compte, et on s'en rend tous compte, entre autres on s'en rend compte dans les équipes de recherche, on se rendrait compte que le sociologue dans une banque, il est loin d'être inutile. Il n'est pas que sociologue, il fait aussi un job à l'intérieur de la banque. Le psychologue, c'est la même chose, et ce, dans beaucoup d'entreprises. J'ai pris la banque parce que c'est un domaine que je connais un petit peu et que j'ai déjà rencontré des situations comme celle-ci. Pourquoi est-ce que les entreprises sont si frileuses par rapport à ce point-là? Parce qu'on ne va pas seulement nous dire qu'il n'y a que dans l'électricité et la plomberie qu'il y a des futurs postes, même si je suis forcément d'accord avec vous sur le fait que c'est difficile de trouver un plombier. Donc réfléchissons à cette voie-là qui est intéressante pour les dirigeants d'entreprise. Et qui est sous-utilisé dans notre
Alors,
pays.
Alors, ce qu'on dit aussi, c'est qu'en France, il y a la tyrannie, entre guillemets, du diplôme. C'est-à-dire qu'il faut avoir le diplôme adapté à un poste. Si vous n'avez pas le diplôme correspondant, ben, hop, vous êtes écarté. Ou le niveau de diplôme suffisant. Les choses seraient beaucoup plus ouvertes, notamment dans les pays anglo-saxons. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, Bruno Cyr, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce Alors, que vous pensez de ce que vient de dire Marie-Christine Monnoyer?
Je crois qu'effectivement, il y a... je rejoins tout à fait. Il y a, heureusement... qu'on peut avoir des intérêts pour un domaine à la sortie du bac et faire des études dans ce domaine, et ensuite faire tout autre chose dans sa vie professionnelle. Heureusement que c'est un cas fréquent, et on ne peut pas demander à des jeunes qui sont au lycée, parce que dès la première aujourd'hui et la terminale, on leur dit « alors qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» etc. Bon, on leur boule le crâne avec « il faut choisir une filière bon. ». Mais à ce moment-là, ils connaissent pas grand-chose, souvent, à part ce qu'ils ont vu autour d'eux, sur les métiers possibles. Donc, ils ont envie de faire un certain nombre d'études. Moi, je suis pas contre cette possibilité. Mais la question se pose ensuite de l'insertion dans la vie active. Et c'est vrai que là, il faut pas laisser croire aux jeunes que, d'abord, ils vont nécessairement trouver un emploi dans le domaine qui correspond au domaine qui leur a plu quand ils ont fait leur choix à 18 ans. Mais, premier point, et surtout, que ce n'est pas le niveau d'études qui fait le niveau de salaire. C'est-à-dire que si vous avez fait des études et que vous n'avez donc pas acquis les connaissances techniques d'un métier, hein, pour être médecin, avocat, ça paraît assez évident, mais dans beaucoup de métiers, il faut quand même aussi accepter d'apprendre la technique du métier. Si on veut rentrer à un certain niveau, ben, si vous avez fait des études et que vous faites un métier qui est totalement différent, il faut accepter de rentrer à un bas niveau pour apprendre par l'apprentissage. Et c'est pour ces jeunes-là qu'il faut leur dire bac plus 5, ça ne fait pas un niveau de salaire. Et je reviens à une question que j'ai beaucoup travaillée parce qu'une partie de ma vie, j'ai consacré à faire de la recherche sur la question des rémunérations. En France, on a un tropisme qui est lié au fait qu'on n'a pas bien compris ce que signifiait un contrat de travail par rapport à un statut. Les fonctionnaires ont un statut, c'est-à-dire qu'ils passent un niveau de concours, et on pourrait dire lié à un niveau de diplôme, et ça leur donne droit à un salaire. Mais on ne les paie pas parce qu'ils font quelque chose, on les paie parce qu'ils ont passé un concours, et ensuite ils vont progresser au fil de leur ancienneté par rapport à ce concours qu'ils ont passé à une date donnée. Dans le contrat de travail, c'est pas ça. Vous êtes payé, et un contrat, c'est deux éléments de balance. Vous avez un certain nombre d'activités qui vous sont confiées, on estime qu'elles ont une certaine valeur, et on vous donne un salaire en regard de ça. Et donc, le niveau de diplôme est indépendant de ça. Donc, si vous êtes capable de faire des activités qui ont une valeur ajoutée importante, vous êtes payé. Et ça revient, au fond, à cette espèce de dicton populaire qui est complètement fou, de dire « tout travail mérite salaire ». Ça, ce n'est pas vrai. Un artisan, il peut très bien travailler, s'il ne trouve personne pour acheter son travail, hein, le fruit de son travail, il ne pourra pas se verser de salaire. Et ça, c'est la racine du rapport économique, si vous voulez. Tout travail, tout salaire mérite travail. Ça, c'est une formule qui est vraie, mais tout travail mérite salaire. Tous les artisans savent que ce n'est pas vrai. Et donc, le travail ne vaut que parce que je suis capable de le vendre. Et c'est la valeur de la vente qui permet de payer le salaire. Ça ne peut pas être dans l'autre sens. On ne paye pas les gens parce qu'ils ont un diplôme. On les paye parce qu'on a vendu ce qu'ils ont contribué à fabriquer.
C'est vrai dans l'artisanat, mais je ne suis pas tout à fait sûr que vous puissiez dire ça dans l'industrie.
Hein. Bien sûr, pareil. Mais non, on l'a oublié, ce bon sens. Mais c'est pareil. Si vous ne vendez pas d'avions, vous ne paierez pas les gars d'Airbus. Hein. C'est pas parce que vous les avez embauchés que vous les paierez. Donc, c'est partout pareil. C'est la racine économique. Ou alors, on tombe sur le statut. Mais le statut, on a refusé le statut après la Révolution. Hein. On a créé le contrat, la logique de contrat, pour que, justement, on ait un principe d'égalité face à la loi. Alors que le statut introduit une inégalité. Bon, mais c'est un autre débat sur lequel on pourrait revenir.
On va peut-être conclure, sauf si Marie-Christine Monnoyer veut ajouter quelque chose, parce qu'évidemment, on pourra en parler longtemps, mais on constate en tout cas, et je le vois à travers le débat que vous venez d'avoir, que cette proposition du MEDEF a au moins le mérite d'ouvrir la discussion et peut-être de donner un coup de pied dans la fourmilière. Bon, je ne sais pas si cette proposition restera lettre morte ou si elle s'invitera dans le débat politique des prochains mois. Toujours est-il que j'ai vu que le ministre du Travail actuel, Jean-Pierre Farandou, que je ne connaissais pas personnellement, a dit qu'il était hors de question pour le gouvernement de la reprendre, en tout cas dans les mois qui viennent. On verra ce qu'il en adviendra. Pour notre part, nous allons nous accorder une petite respiration dans cette émission. Retour en direct dans une vingtaine de secondes. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Et je retrouve mes deux invités, Marie-Christine Monnoyer et Bruno Cyr, avec qui nous allons maintenant revenir sur les 5 ans d'inéligibilité requis mardi par le parquet général contre Marine Le Pen, sans exécution provisoire cette fois-ci. C'est donc ainsi que s'est conclu le procès en appel pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens de ce qui s'appelait encore à l'époque le Front National. L'arrêt et le jugement définitif devraient être rendus avant l'été. Mais la députée RN, candidate naturelle de son parti à la prochaine présidentielle, a d'ores et déjà annoncé que si les réquisitions sont suivies, elle n'attendra pas la cassation et s'estimera empêchée pour 2027. Compte tenu de la tournure des événements après ce procès en appel, confirmant peu ou prou les conclusions de celui qui avait été mené en première instance, est-ce que vous pensez que la peine requise par le parquet général est logique et juste, et donc que Marine Le Pen ne devrait pas échapper à une peine d'illégibilité, c'est un mot difficile à prononcer, inéligibilité suffisamment longue pour l'empêcher de concourir à la présidentielle de 2027. Bruno Cyr, quel est votre avis?
Alors, moi je ne fais pas le procès des juges, je pense que c'est une erreur de faire le procès des juges. Les juges, les magistrats, ils appliquent la loi. Ils appliquent la loi, et donc s'il y a un procès, entre guillemets, à faire, ça serait celui de la loi, hein, de dire est-ce que les lois sont correctes, sont adaptées, etc. Après, il ne faut pas reprocher à celui qui est chargé d'appliquer la loi de prendre des décisions qui ne sont pas correctes, s'il a appliqué la loi. Bon. Alors ça, c'est le principe général, et je crois
qu'il faut... confiance dans les juges.
Il faut en rester là. Ceci étant, on le sait bien, un certain nombre de textes sont quand même relativement flous. C'est-à-dire que les parlementaires arrivent à se mettre d'accord sur des textes, mais c'est souvent avec des choses dites à demi-mot qui prêtent à interprétation. Et donc la jurisprudence, c'est-à-dire que l'analyse des décisions et la confirmation par des cours d'appel, la confirmation en dernière instance par une cour de cassation, vient préciser les textes. Alors j'en reviens à la question de Marine Le Pen. Dans ce cas précis, il n'y a pas très peu de jurisprudence. Donc il y a des flous dans les textes, c'est sûr. Et il n'y a pas une jurisprudence considérable qui permet de dire, écoutez, le droit c'est ça, et puis il n'y a pas à en sortir. Donc effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont sujets à interprétation.
Ça veut dire par les magistrats. À l'appréciation des
juges. Et on l'a vu notamment dans cette question sur le principe d'exécution immédiate de la peine, où en première instance Marine Le Pen avait été condamnée donc à une exécution immédiate.
Donc elle ne pouvait plus être éligible.
Et la réquisition a dit qu'il n'y avait pas lieu de faire ça dans ce cas précis. Les magistrats ne sont pas tous d'accord sur la façon d'appliquer la loi et d'interpréter les choses. Alors je trouve que là où ils ont peut-être une responsabilité quand même, les magistrats, c'est que quand ils interprètent un texte qui n'est pas suffisamment clair et qu'ils doivent aux Français, puisqu'ils rendent la justice au nom du peuple français, ils doivent aux Français des explications. D'ailleurs, je trouve que parfois, il y a un certain nombre de décisions que le grand public ne comprend pas, et je pense qu'il y a un défaut d'explication de la part des magistrats eux-mêmes. Ils ne peuvent pas dire, écoutez, moi je connais le droit, je l'applique comme je veux, et puis fermez vos gueules.
Et puis c'est comme ça.
Passez-moi l'expression. Non, je pense que c'est normal que les gens s'interrogent, posent des questions, etc. Moi, je remets pas en cause. Je pense que sur ces questions-là, il n'y a peut-être pas assez eu d'explication sur la première décision. Je trouve que la seconde décision, alors je ne vais pas tout lire en détail, mais qui a duré 6 heures, qui a été très, très argumentée, là, l'explication a été fournie par la réquisition. Et donc, effectivement, il y a une peine qui condamne Mme Le Pen, et c'est vrai que, pour être clair, moi je comprends sa position, elle dit, bon, ben, si les juges suivent la réquisition, ce qui est assez vraisemblable.
Hein, oui.
Donc, si les juges suivent la réquisition, et donc selon toute vraisemblance, je ne pourrai pas me présenter parce que je n'irai pas en cassation. Et même si je vais en cassation, ça sera trop tard, parce qu'il faut savoir que les tribunaux, et notamment la Cour de cassation, est très encombrée, donc il y a une file d'attente, et même là, si c'est un cas un peu à part, avec la meilleure volonté du monde, ils n'arriveront pas à prendre une décision avant que les campagnes ne démarrent, parce qu'on se bloque sur le printemps, le mois de mai 2027, mais en réalité, la campagne va démarrer dès septembre. Si Mme Le Pen...
n'est pas sûr de pouvoir participer.
Voilà, elle n'est pas sûr de pouvoir participer. Et si elle commence à faire campagne,
ce
et puis qu'on
trop dangereux pour son parti.
Au mois de février qu'il n'y a plus de candidats pour le Rassemblement national, ça serait dramatique. Donc je pense que la Cour de cassation, de toute façon, le délai n'est pas compatible avec l'élection. Donc il est vraisemblable qu'elle ne se présentera pas. Alors ceci étant, je peux quand même avoir un regret, mais je ne formule pas vis-à-vis des juges, je le formule vis-à-vis de la loi. Je trouve que sur un cas comme ça, soit il y a eu malversation, enrichissement personnel, c'est prouvé, vol prouvé, etc. C'est pénalement répréhensible, et là, circuler, il n'y a rien à voir. Mais si ce n'est pas le cas, si elle a fait ça en bonne foi, et
qu'on ne peut pas prouver que c'est par mauvaise foi.
Voilà, oui. Au profit de son parti politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, je trouve que là, la loi est très très dure parce que c'est au peuple à juger. Et au fond, la justice se rend au nom du peuple, il y a des élections, les gens savent...
C'est dans les urnes que la sanction doit tomber.
C'est les urnes qui devraient trancher et pas les magistrats. Voilà mon point de vue.
Marie-Christine Monnoyer, je ne suis pas certain que vous soyez sur la même ligne.
Alors, il y a des points sur lesquels je suis évidemment sur la même ligne. Je suis évidemment sur la même ligne quand Bruno Cyr dit que je ne critique pas les juges appliquent la loi. Et si nous ne disions pas tous les deux la même chose sur ce point-là, ça serait quand même un petit peu gênant. Surtout en étant tous les deux professeurs des universités. Je trouverais que ça serait assez gênant. Le deuxième point, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc je vais par gradation successive, c'est la question de l'explication. J'ai bien entendu que l'explication de ce jour, enfin d'hier, avait duré 6 heures et que donc elle est détaillée. Mais je me souviens que l'explication de la première instance était aussi extrêmement longue.
Oui, oui.
Donc, je trouve que quand vous dites les explications ne sont pas suffisamment détaillées, dans certains cas peut-être, mais dans ce cas-ci...
C'est clair pour le public.
Oui.
Il n'est pas forcément spécialiste.
Oui, mais enfin bon, il faut aussi qu'elle soit claire pour les juristes, il faut aussi qu'elle soit claire pour ceux qui sont directement concernés. Et donc, là, je trouve qu'elles ont quand même été très longuement précisées, avec des mots extrêmement choisis dans les deux cas. Mais je sais bien pourquoi.
Mais ça arrive quand même à deux décisions différentes.
Oui, mais la deuxième décision, vous avez d'ailleurs insisté sur le fait qu'elle portait essentiellement sur l'exécution immédiate.
Voilà, exactement. C'est là où ça a donné une différence.
Alors le reste, que pour le fond, on est quand même resté sur des choses très similaires. Alors, on change un petit peu la durée, etc. Mais sur le fond, on est quand même dans un point qui est de grande similarité. Et personnellement, ça ne m'étonne pas. Parce que moi, j'ai un peu regardé l'importance des sommes en jeu. On est quand même à 1,4 million euros. Et ce qui est très impressionnant, c'est la durée. Parce que, et la compétence des gens qui sont concernés. Tous ceux qui sont devant le tribunal, ils ne sont pas bac plus 5, ils sont bac plus 12.
Hein?
Oui, oui. Enfin, ils ont fait des études solides, en droit constitutionnel, en expertise comptable. Donc tous ces gens-là, ils sont capables de lire en détail des éléments qui sont comme le statut des assistants parlementaires. Ils sont capables de comprendre très bien que quand ils écrivent un contrat de travail, comment est organisé ce contrat de travail. Et il est évident que l'assistante de Madame Le Pen sait très bien qu'elle travaille essentiellement pour le parti et pas du tout pour son statut d'assistant parlementaire. Et c'est le cas pour la plupart des gens. Donc en fait, quand vous bougez pas de votre ville, que vous restez dans votre bureau parisien et que vous ne mettez jamais les pieds à Bruxelles ou à Strasbourg, ça veut dire que votre job d'assistant parlementaire, il est quand même extrêmement léger. Et quand on arrive à trouver trois mails sur 4 ans ou même sur 18 mois, c'est que vous n'avez pas beaucoup travaillé pour votre théorique patron. Alors, quand on sait qu'il y a 7000 assistants parlementaires à Bruxelles, est-ce qu'on ne peut pas se dire que ça ne va pas se voir ? Moi, je ne peux pas imaginer que Mme Le Pen, qui a été capable de transformer son parti d'une façon aussi importante, qui a une expérience politique, administrative, qui est liée aussi bien à la famille dans laquelle elle est née que les fonctions qu'elle a eues, qui a été si souvent candidate à la présidence de la République, ne s'est pas rendu compte. Non, ça, je suis désolée, c'est pas possible.
Ah, mais je pense que ça n'est rendu compte vraisemblablement. Moi, je dis simplement, est-ce qu'il y a eu enrichissement personnel ou pas ? Si c'est pour le parti, je pense qu'à peu près tous les partis font pareil. Il faut quand même.
C'est ce que pensent beaucoup de gens. Alors
il faut pas exagérer. J'en ai connu des assistants parlementaires.
C'était
des
secrétaires.
Donc c'est pas. Moi, je distingue, si vous voulez, la malhonnêteté de le fait qu'effectivement on a un peu mélangé les choses, mais c'était pour le développement d'un parti politique, c'est pas de l'enrichissement personnel. Voilà, c'est simplement ce que je dis. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est le peuple qui doit juger, parce qu'après, effectivement, tout ça se sait, tout ça se dit, et est-ce qu'on en continue à avoir envie de voter pour elle ou pas, ça c'est au peuple à le dire. Tandis que là, le peuple ne pourra pas le dire.
Oui, alors... Oui,
enfin,
c'est un peu gênant.
Elle a quand même un successeur.
Oui, mais bon, c'est pas elle.
Alors, bon, c'est très bien, vous en parliez justement du peuple qui va juger, parce que, bon, d'un point de vue strictement politique, hein, suite à cette affaire, et on peut penser qu'elle va être condamnée, qu'elle ne pourra donc pas se présenter en 2027.
C'est tout à fait.
Il suffit qu'il y ait 2 ans d'inéligibilité, même pas 5, et elle ne pourra pas se présenter. Donc, est-ce qu'il y a le risque, donc, si cette peine est confirmée dans quelques mois, que, bon, une fois de plus, l'impartialité de l'appareil judiciaire français soit un peu plus remise en cause qu'il ne l'est déjà. On sait que malheureusement, c'est souvent le cas. Et est-ce que ça ne va pas avoir pour conséquence de faire monter encore un peu plus dans les sondages celui qui viendrait le candidat du RN, Jordan Bardella, crédité aujourd'hui, je le rappelle, de 35% des intentions de vote. Est-ce que ce n'est pas la conséquence que va avoir ce jugement ?
C'est le risque, Bruno parce Cilla. Que je trouve qu'effectivement, moi, je suis profondément démocrate. Et je trouve que c'est au peuple à juger, et je fais confiance au peuple, même si ce n'est pas nécessairement la décision que je voulais. Et Dieu sait que ça n'a pas toujours été mon candidat qui a été finalement retenu. Mais que ce soit le municipal, les députés, etc. Donc, bon, mais c'est le jeu de la démocratie. Si on n'a pas cette respiration démocratique régulièrement, qu'est-ce qu'on a comme modèle alternatif, hein? Des dictatures qui sont pires que tout, quel que soit de droite ou de gauche. Donc là, le monde est entouré de dictateurs, hein, de dictateurs qui ont souvent fait des massacres terribles. Je pense à l'Iran, mais on pourrait parler de Pol Pot, on pourrait parler de Cuba, on pourrait parler d'un tas de pays. Donc moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de la démocratie, d'une démocratie qui fonctionne. Et je trouve qu'il y a un moment où il faut faire confiance au peuple qui fait ses choix et les respecter. Et donc, c'est vrai que si là, on retire aujourd'hui, il y a à peu près 30% des gens qui déclarent avoir envie de voter pour le Rassemblement.
Même plus que ça.
On leur retire leur candidate, alors qu'elle n'est pas nécessairement malhonnête, même si elle a un peu triché, je le reconnais, mais ce n'est pas pour son enrichissement personnel. Si c'est pour l'enrichissement personnel, là, ça disqualifie de mon point de vue. Mais si ce n'est pas le cas, laissez le peuple choisir, et puis voilà. Et donc on va lui donner Jordan Bardella, ensuite on se dira, voilà, Jordan Bardella est élu. Sauf que Jordan Bardella, il n'a pas la bouteille de Mme Le Pen, il n'a pas la même expérience, et si elle devait être élue, et moi je respecterais ce choix même si ce n'est pas nécessairement le mien, mais si elle devait être élue, je préférerais avoir Mme Le Pen avec la bouteille qu'elle a que Jordan Bardella, qui me paraît un peu tendre, un peu jeune pour faire le job. Voilà.
Marie-Christine Monnoyer, est-ce que, comme certains le disent, ce serait un déni de démocratie si Mme Le Pen ne pouvait pas se présenter et que ce soit finalement donc Jordan Bardella, qui a 28, 29 ans, se retrouvait peut-être en tête le soir du premier tour avec des chances d'être élu?
Moi, je trouve qu'en disant ça, on fait comme si la décision des magistrats n'était pas la bonne. Et en fait, en disant on disqualifie Mme Le Pen avec le résultat du tribunal, en fait, dans ces conditions, le tribunal peut dire à quoi nous servons. Et je trouve que si on veut une démocratie, évidemment, je suis aussi profondément démocrate, si on veut une démocratie, on ne peut pas se permettre, à certains moments, de disqualifier le tribunal qui a jugé au nom des lois qui ont été
aujourd'hui,
définies.
Aujourd'hui, ça va au-delà de ce simple tribunal. Il y a beaucoup de gens qui remettent en cause le fonctionnement de la justice en France aujourd'hui. Voire l'impartialité des juges.
Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas les juges qu'il faut reprocher. C'est cette loi. C'est la loi qui est sans doute mal faite dans ce cas précis. Parce que
Mme Le Pen avait dit oui.
Oui, non, peut-être, mais...
Pas peut-être, c'est vrai.
Non, mais sans doute, mais je veux dire, moi, qui que ce soit qui serait dans la situation où elle est, qui que ce soit, je dirais la même chose. C'est-à-dire, je trouve que là, il y a un moment où on rend la justice au nom du peuple, c'est vrai, mais si le peuple, au fond, et les élus du peuple ont fait des lois qui ne sont pas correctes, il faut avoir le courage de dire, cette loi, finalement, nous empêche d'avoir un choix qu'on aimerait bien avoir dans les urnes. Et c'est vrai que...
Et on recommencera la prochaine fois en disant finalement la loi n'était pas bonne, donc pourquoi pas ne pas accepter le résultat du tribunal. Moi, ça me gêne profondément.
Mais moi, j'accepte le résultat du tribunal.
Quoi qu'il en soit, il va bien falloir l'accepter.
J'accepte le résultat du tribunal. C'est ce que j'ai commencé par vous dire et je le maintiens.
Après, c'est les conséquences.
Mais je regrette qu'on en soit là. Je dis cette loi est mal foutue. Et donc c'est les députés qui l'ont conçue qui l'ont mal foutue. Parce que là, on va se priver d'un choix qui n'est pas bon. Parce que s'il y a 30% des gens qui ont envie de ce choix, on ne peut pas leur dire circuler, il n'y a rien à voir.
Peut-être que
c'est
si...
C'est compliqué.
Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué à propos de Mme Le Pen. C'est que le procès en question, ça fait 10 ans qu'il dure. Ça fait 10 ans que les débuts des premières convocations ont été faites. Pourquoi est-ce qu'il a duré aussi longtemps? Ce n'est pas uniquement parce que les tribunaux étaient surchargés. C'est parce que Mme Le Pen a, par 45 fois, demandé a fait des recours, etc. Et donc, on a rallongé. Si la décision avait été prise il y a 5 ans, puisque ça fait 10 ans que ça dure, la question eût été autre. Les conséquences eussent été autres. Il se trouve que maintenant, on est à la proximité des, agents, des élections présidentielles et que je comprends bien votre réaction de dire, au fond, les Français vont être dans une situation inconfortable.
Une candidate pour laquelle ils auraient peut-être voulu voter.
C'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. Je ne dis pas que j'ai la solution.
L'arrêt concernant cette affaire et donc la peine retenue contre Marine Le Pen devrait être connue d'ici l'été, en juin, a priori. On y reviendra sans doute à ce moment-là dans cette émission. Avant de conclure, reste quelques instants pour vous permettre de partager avec nos auditeurs vos coups de gueule ou vos coups de cœur du jour. Eh bien, c'est Marine-Christine Monnoyer qui va commencer.
En fait, je n'ai ni coup de gueule ni coup de cœur. Je suis trop marquée par tout ce qui se passe aussi bien en Iran qu'aux États-Unis et qui se traduit par des morts en série. De personnes qui manifestent ou de personnes qui sont contraintes par la loi. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser en permanence et de me dire combien un pays peut être transformé si des dictatures qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leurs intérêts se permettent des actes qui sont complètement aberrants.
Oui, moi, je rejoins aussi ça. Je trouve que notre actualité est dominée par les horreurs qu'on est en train de découvrir en Iran. Si vous voulez, que ce soit des religieux qui aient fini par arriver là, les bras m'en tombent, quoi. Ça m'empêche de dormir parce que je me dis, mais ces pauvres Iraniens... Alors, les Iraniens, c'est un peuple éduqué, c'est un pays qui a d'énormes ressources, enfin, et ils souffrent le martyre, ils souffrent le martyre à cause d'une dictature religieuse. Moi, ça me coupe le souffle.
Oui, alors beaucoup de gens aujourd'hui se disent ce ne sont pas nos affaires, sauf qu'on peut se poser la question si un jour tout ça pouvait arriver.
Oui, ils ont quand même de sacrés réseaux. Hein. Ils ont de sacrés réseaux et les histoires du Bataclan, etc., ont quand même été financées largement par l'Iran. Tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, c'est un peu notre affaire.
Donc, il faut quand même qu'on regarde ce qui se passe en Iran. Cette 218e mêlée de l'info est terminée. Un grand merci à vous deux d'y avoir participé. Ce furent des débats très intéressants, passionnants. Merci aussi à Coraline Camebrac qui a réalisé cette émission comme chaque semaine. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et je remercie enfin les fidèles et les nouveaux auditeurs et auditrices de La Mêlée. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. We'll be right back.